France Culture.
Bonjour Francis Kurkdjian.
Bonjour Caroline.
Avoigne épisode 2, la petite boutique du parfumeur. Parce que nous nous sommes quittés à la fin de l'épisode 1, hier, sur la pièce qui représente votre bureau, reconstitué dans l'exposition du Palais de Tokyo, qui a lieu à l'automne 2025, et où on voit à quel point les sources d'inspiration remontent à loin. Il y a dans ce bureau, qu'on retrouve, où nous enregistrons, à Paris, il y a dans ce bureau des références à des univers artistiques qui comptent toujours pour vous, mais qui ont compté dans votre parcours d'enfant, dans votre formation de parfumeur et jusqu'à votre métier aujourd'hui. Et en particulier, je voudrais que vous nous parliez de la vue que vous avez de votre bureau, parce qu'on se trouve boulevard des Capucines à Paris. Et votre vue donne directement sur un monument qui n'est pas n'importe quel monument pour vous.
Je suis presque ému en levant les yeux parce que c'est l'Opéra de Paris. C'est le dôme de l'Opéra de Paris, avec cet Apollon qui brandit la lyre comme une victoire presque sur le monde. Et c'est vrai que ça me ramène à mes 11 ans, 12 ans, quand je suis venu pour les premières fois avec ma mère qui m'accompagnait voir les spectacles de danse à l'Opéra de Paris. Il n'y avait pas encore l'Opéra Bastille à l'époque.
Ouais, c'est le Palais Garnier.
C'est le Palais Garnier, tout à fait. Il n'y avait même pas l'école de danse de Nanterre, donc les petits rats circulaient aussi dans le quartier de l'Opéra. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais être danseur étoile. C'est même pas danseur tout court, danseur étoile. Et donc, je suis venu deux fois passer le concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra. On rentrait par derrière, la rue Scribe. C'est des grands moments. Et donc, j'ai été pris les deux fois pour le premier examen, qui était l'examen de physiologie, pour voir si on avait les aptitudes physiques. Et le samedi matin suivant, pour aller passer l'examen technique. Donc, c'était, moi, je venais de la banlieue, hein, 93, petite banlieue, un peu reculé du 93. Donc tout d'un coup, venir à Paris, mettre ses chaussons pour danser dans une des salles de l'Opéra de Paris, c'était quand même un moment un peu angoissant, je pense, maintenant, rétrospectivement. Et à la fois merveilleux, parce que plein d'espoir sur l'avenir. Et puis patatras, les deux fois où j'ai tenté ce concours, j'ai été recalé. Donc quand on venait chercher le résultat le mardi soir, parce que c'était le mardi soir que les résultats étaient levés, j'ai appris à chaque fois que j'étais recalé. Donc j'ai passé la limite d'âge après, parce qu'à partir de 12 ou 13 ans pour les garçons, on passe la limite d'âge et je me suis inventé une autre vie.
Donc c'était un rêve de devenir danseur étoile.
Ah, mais c'était mon rêve, mon rêve.
Ça venait d'où ce goût pour la danse? Vous vous en souvenez?
J'ai une photo de moi où je suis en tutu blanc, dans le tutu de ma nounou. Je dois avoir 3 ou 4 ans parce qu'on était encore dans l'appartement où je suis né, oui, le premier appartement que j'ai connu. Et je suis en tutu blanc, une main au-dessus de la tête, l'autre main en position troisième, comme ça. Et j'esquisse un peu ce pas de danse dans un tutu blanc, et c'est le tutu de ma nounou. Donc je crois me souvenir, parce que j'étais vraiment petit, que ma nounou m'a emmené un jour à son cours de danse. Elle devait avoir 15 ou 16 ans, elle s'appelait Valérie. Et je crois que j'étais fasciné, il y avait un truc qui était fascinant. Ce qui me fascine toujours dans la danse, d'ailleurs, c'est la manière dont le corps peut exprimer des sensations, la manière dont le corps peut évoluer dans l'espace et la manière dont le corps peut devenir libre. Ça me fascine. Et la manière dont la technique, quand on est un artiste virtuose, vous libère et vous permet d'exprimer quelque chose. Et quand on dépasse la technique, ça m'a toujours fasciné dans la danse. J'essaie, dans la parfumerie aujourd'hui, d'exprimer ça, de dépasser l'ingrédient. Pour moi, c'est très important de dépasser l'ingrédient. Sinon, on se limite à jasmin, lavande, acétate de benzyle, géranium. Ça veut rien dire, tout ça.
C'est trop étriqué.
Non, ce n'est pas étriqué. C'est juste que c'est comme si, finalement, le compositeur de musique dépassait pas le stade de la note. Pour moi, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Quand on reste au stade de l'ingrédient, il n'y a pas d'émotion.
Donc il y avait quelque chose qui se passait dans votre corps à vous quand vous dansiez, quand vous étiez enfant. Mais il y avait aussi, je suppose, Francis Kurkdjian, des émotions quand vous alliez voir des spectacles. Parce que vous alliez, d'ailleurs vous continuez peut-être à aller...
C'est fabuleux, j'ai assisté à la saison d'ouverture à l'Opéra Garnier. J'ai emmené toute ma famille, j'ai pris 10 places pour emmener mes nièces, mon père, toujours en vie, mon frère, mes soeurs. Ben voilà. Et il y a le défilé d'ouverture de l'Opéra de Paris, qui était un grand moment. Eh ben, je pleure à chaque fois. Un peu comme une midinette. Déjà parce que dans la compagnie de danse où j'ai fait mes classes, on faisait la même chose sur la même musique. Donc moi, j'ai défilé sur cette musique de Berlioz, la marche des Troyens de Berlioz. J'ai défilé petit de l'âge de 4 ou 5 ans jusqu'à mes 21, 22 ans, quand j'ai arrêté de faire de la danse. J'ai défilé tous les ans. Il y avait un spectacle de fin d'année où on défilait sur cette marche de Troyens. Beaucoup moins longue que les 25 reprises qui sont faites à Paris, parce qu'il y a beaucoup moins d'élèves, évidemment. Donc déjà, il y a ce souvenir qui est presque lié au corps. Il y a quelque chose de très proustien qui est une... En écoutant la musique, j'ai la sensation aussi d'être à ce moment-là, ce jour-là. Et puis, ici à l'Opéra de Paris, c'est voir ces petits-enfants, je crois que c'est 6, 7 ans, qui défile sur cette scène immense, parce que c'est une scène qui est l'une des plus grandes du monde, qui est en pente, inclinée, avec, j'imagine dans leur tête, toutes les émotions qui doivent se passer, parce qu'ils ont tous le même but. Ils n'y arriveront pas tous, et ils le savent, mais tous le même but, c'est d'avoir cette place ultime de danseur ou danseuse étoile, d'être le soliste qui va être applaudi de, un peu différemment. Et c'est fabuleux de se ressentir à la fois... Pour certains, parce que, et c'est là où on voit aussi les caractères qui déjà, même petits, émergent. Ceux qui ont ce plaisir de la scène, parce qu'il faut avoir l'anxiété de la scène, il faut avoir le trac dans les coulisses, mais il faut aussi avoir le plaisir de la scène. Et ça se voit, ça se ressent, celui, le petit garçon, la petite fille qui déjà a la banane. Parce qu'il y a un moment assez jouissif, tout d'un coup, d'être sur scène. Et quand on maîtrise cette peur-là, c'est fabuleux. Et on voit tout ça, et on voit l'évolution des corps, des silhouettes qui s'affinent ou pas, parce qu'il y a toujours la période ingrate de la puberté qui tout d'un coup vient un peu poser un peu son espèce de spectre noir, parce qu'il y a des enfants et des élèves qui sont écartés parce que tout d'un coup la puberté, le corps ne grandit plus, le corps évolue trop et ne correspond plus à des critères qui sont nécessaires, alors beaucoup moins rigides que ceux que moi j'ai pu connaître à mon époque. Les choses se sont un peu distendues, mais quand même on ressent ça.
Je ne savais pas, Francis Curgeon, en commençant cet épisode qui vise à raconter votre enfance, hein, que nous passerions autant de temps sur la danse, voire que vous me regardez. C'est comme si j'avais signifié qu'on allait avancer, mais vous auriez pu faire une demi-heure, je pense, sur la danse. Et plus encore, c'est vraiment un univers qui est fondamental pour vous, et d'ailleurs dans votre bureau, puisqu'on est là aussi dans votre bureau en commentant des choses qui représentent votre atelier mental d'une certaine façon. Il y a une photo d'une partie du corps, c'est pas une photo entière, mais c'est la photo d'un pied cambré d'un danseur qui est pas n'importe lequel, qui est Rodolphe Nureyev.
Que j'ai vu danser dans les dernières années de sa vie. Et en fait, la danse, pour moi, c'est l'école de ma vie, en fait. L'école du travail, de la résilience, de l'abnégation, de l'effort, refaire, défaire. Mon professeur de l'opéra me disait, le meilleur professeur au monde, c'est la glace. C'est violent, en fait.
Le miroir, hein ?
Oui, quand tu parles de la glace, c'était le miroir. C'est l'autocritique, ne jamais être satisfait. On fait deux tours pour qu'on ne laissez pas faire trois tours. Traquer le défaut, traquer le détail. C'est quand on passe devant un miroir, même dans la rue, un objet qui réfléchit sa propre image, c'est qu'est-ce qui ne va pas ? Grandir avec cette idée-là de l'âge quasiment de 5 ans jusqu'à 20 ans, ça laisse énormément de traces. Mais en même temps, par rapport à mon métier de danseur aujourd'hui, et en plus à une époque où on frappait...
C'est drôle que vous disiez, c'est par rapport à mon métier de danseur, vous avez dit.
J'ai dit ça. Bon, voilà. Ouais. Mais voilà, donc... Mais
eh ben voilà.
En plus, il y avait la rigueur même physique, il avait une badine. On y frappait, on s'attachait le pied sur la barre avec une liane en cuir pour avoir le pied en aile de pigeon. Enfin, il y a quand même des choses qui sont d'une autre, totalement d'autre époque, presque d'un autre siècle. Et en même temps, aujourd'hui, en plus, maintenant que j'ai l'opéra en face de moi, j'y pense, il n'y a pas une journée où je pense ou je ne pense pas à ça. C'est évident. Je pense que la manière dont je vis mes parfums, après avoir été sur scène, où en plus j'ai cette chance, étant le seul garçon dans cette compagnie, et dans les différentes troupes que j'ai pu faire, où j'ai été à la fois Petrushka sur un Stravinsky, un prince charmant dans un lac des cygnes, j'ai fait un Pierre le Grand, un peu dictateur. Donc il y a l'idée de que le corps ressent des émotions, et comme le parfum, pour moi, est une sensation physique avant tout, ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. Je ressens les parfums avant même de les sentir.
C'est le bureau d'un parfumeur, de fait. Et puis il y a des petites fioles, je ne sais pas comment les appeler. Hein.
C'est ça.
Il y a les mouillettes, j'ai appris
des
ça. Non, c'est des touches. Bon, je voulais faire la fière.
on dit mouillettes également.
Pour sentir, elles sont numérotées. Mmh. Bon, et puis il y a des.
Je suis en plein travail en ce moment. C'est pas toujours aussi rempli de flacons, mais en ce moment j'ai une crise.
Il y a des petits flacons et puis il y a des très gros. Flacons qui représentent des parfums que vous avez créés, notamment, et évidemment sur lesquels nous reviendrons. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, le bureau d'un amateur ou d'un amoureux des arts. Il y a une grande bibliothèque avec des livres sur la mode. Bon, il y a du Chanel, il y a du Dior, il y a du Yves Saint Laurent, des gens de la mode qui ont beaucoup compté pour vous, mais il y a de la littérature, en particulier Proust, Sagan. Sagan, oui. C'est important pour vous?
Ah oui, Sagan m'a inspiré même un parfum, Bonjour Tristesse. Les premières pages de Bonjour Tristesse où la lumière passe à travers les persiennes et qu'elle entend la conversation de son père en bas et qui fait chaud, ça m'inspire un parfum. Sagan, j'aime beaucoup parce que c'est d'une modernité folle, c'est la liberté. C'est aussi une écrivaine qui a eu ce premier succès très jeune, un peu comme moi. J'avais 25 ans, elle en avait 18, j'en avais 25. C'est gérer le succès. Apprendre, c'est des fulgurants. C'est aussi un écrivain de son époque, de son temps. J'aime bien son rythme, j'aime bien ce qu'elle a incarné, j'aime bien sa folie. C'est une femme que j'aime beaucoup, en fait, qui me parle énormément.
Je me souviens dans la pièce reconstituée de votre bureau dans l'exposition du Palais de Tokyo, Francis Kurdjian, il y a aussi des écrans et sur lesquels on peut voir notamment un extrait du film Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau avec Yves Montand en 1975. C'est aussi un film fondateur, c'est aussi des choses qui ont compté pour vous dans votre formation.
Le Sauvage, c'est la première fois que j'ai vu un bureau de parfumeur avec des touches et des flacons. On doit être dans les années 77, 78, peut-être 80, à la télévision, puisque le film est sorti bien avant, en salle. Donc c'est forcément une rediffusion, puisqu'on n'allait pas au cinéma dans ma famille. Et tout d'un coup, il y a ces conversations, même sur l'oreiller, où Yves Montand se confie à Catherine Deneuve. Ce sont des très très belles scènes d'intimité sur sa carrière, son métier. C'est une très belle histoire. J'ai eu la chance d'en rediscuter avec Jean-Paul Rapneau. C'était très intéressant. Et pendant très longtemps, mais très longtemps, une fois parfumeur, je pensais que je finirais comme Yves Montand, je finirais en tôle. Un jour, je me rebellerais tellement contre les institutions, entre guillemets, de la parfumerie, que je finirais comme Montand. Et c'est un film que je peux regarder, que j'ai regardé, mais des dizaines et dizaines de fois. Mais c'est fabuleux. Catherine Deneuve est d'une beauté époustouflante. L'histoire, l'intrigue, même la justesse des termes. Quand on regarde un film sur la parfumerie en général, c'est tartissime. Tartissime aujourd'hui. Mais lui, c'est d'une justesse folle. Les enjeux économiques, le succès, le contre-coup du succès, enfin, c'est fabuleux.
Donc il y a cet extrait de film qui a été très important pour vous. Vous disiez que dans votre famille, vous n'alliez pas au cinéma, certes, mais on jouait beaucoup de musique dans votre famille, Francis Kurdjian. Et d'ailleurs, aussi, dans cette exposition, il y a la vidéo culte d'une interview de Maria Callas, qui signifie aussi votre passion pour la musique. Vous avez fait beaucoup de piano. Et dans votre famille, ben, vous aviez un père qui jouait de la guitare, une mère qui chantait, qui jouait de la mandoline.
Exactement. Alors, c'est sûr que j'ai eu très tardivement une culture cinématographique. A contrario, immense culture de musique classique, la culture aussi de la danse classique, culture aussi du musée. Ma grand-mère maternelle m'emmenait très souvent au Louvre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué également, cette ouverture sur le monde musical. Et on regardait à la télévision, au théâtre ce soir, et on écoutait à la radio Jacques Chancel dans Radioscopie, puisque ma grand-mère, qui était immigrée, a appris quasiment à parler français. Elle ne parlait pas français quand elle est arrivée en France. Et elle vouait à Jacques Chancel une admiration incroyable. Donc on écoutait, quand je déjeunais avec mes grands-parents, c'était Le jeu des 1000 francs et Radioscopie. Et la voix de Jacques Chancel, que je réécoute en podcast, parce que c'est disponible. Et je voue à Radioscopie, que j'ai écouté récemment encore cet été, avec des actrices que je côtoie, le monde est quand même incroyable, finalement. Et j'ai écouté certaines interviews qu'il a données à l'époque avec Isabelle Adjani, toute jeune, Catherine Deneuve, toute jeune, et ces femmes qui sont extraordinaires. Et cette culture qui, effectivement, nous a jamais lâchés, en fait. Jamais.
Votre grand-mère maternelle, en l'occurrence, donc c'est d'elle qu'il s'agit, a vécu très longtemps.
Oui.
Elle a vécu jusqu'à 101 ans.
Exactement.
Vous l'avez enregistrée ?
À un moment donné, il m'a paru important qu'elle puisse nous livrer son témoignage de femme émigrée, de femme rescapée. Elle est née sous l'Empire ottoman, ma grand-mère. Elle est née sous l'Empire ottoman et elle a fui la Turquie. Sans passeport, un passeport Nansen, donc c'est le passeport des réfugiés et apatrides, exilés en France. J'ai retrouvé récemment le télégramme qui annonce sa venue en France auprès de son futur époux. Cet été, j'ai retrouvé ça dans les archives de la maison. Un petit papier, comme du papier, mais c'est comme un mouchoir, un buvard presque, tellement il est fin, qui annonce sa venue par le bateau à Marseille. C'est très émouvant. Et j'ai trouvé intéressant, comme elle le disait souvent, elle me disait souvent, moi, mon fils, parce qu'elle m'appelait mon fils, elle traduisait ça un peu en français, mais elle m'appelait quand même mon fils. Elle me disait, tu comprends, j'ai vécu trois guerres et j'ai survécu à la grippe espagnole. Et à 101 ans, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte ces anecdotes-là, c'est assez époustouflant. Et puis je me suis dit, à un moment donné, c'est important pour les générations futures, pour la famille, de figer un peu cela. J'ai jamais réécouté les cassettes encore, je suis incapable. Je les ai retranscrites en digital, mais je suis pas capable de les écouter. C'est pas que j'ai aucun intérêt, c'est que je connais l'histoire. Elle me l'a raconté souvent. Et je vois pas ce que j'ai à apprendre de tout ça, en fait, aujourd'hui. Je la connais, l'histoire.
Mais vous,
et je
vous,
la porte.
Justement, vous la portez, mais vous la portez aussi, parce que vos deux parents sont d'origine arménienne.
Alors, je la porte de manière différente, mais c'est vrai que ma grand-mère est une personnalité de la famille très importante, parce que déjà, je n'ai pas connu mes grands-parents paternels, ils sont décédés. J'étais très jeune, j'avais à peu près 6 ou 7 ans. Et ma grand-mère était de toute façon la personnalité qui était, on va dire, la plus cultivée. Elle venait d'un milieu très privilégié, des propriétaires terriens, éleveurs. Donc, c'est pas le côté paysan, éleveur, paysan, c'est le côté éleveur, propriétaire terrien. Sa famille était aussi représentant légal de Kalous Gulbenkian dans la région. Donc, il y avait une aisance financière très importante. On a hérité notamment de pendants d'oreilles en diamant. Donc, voilà, il y avait une vraie aisance. Elle a été éduquée dans un collège à Istanbul. Elle parlait 4 à 5 langues. Elle n'était pas du tout destinée à travailler, parce qu'on ne travaillait pas. Il y avait le chauffeur, le coiffeur, le cuisinier, il y avait tout ce qu'il fallait pour si tout avait été sur le chemin comme ça devait l'être. Et puis voilà, c'est le destin et la vie qui l'a conduit à être réfugié dans un camp avec sa mère et de se marier avec son petit cousin, finalement, pour pouvoir échapper des camps et venir s'installer en France, notamment à Paris. Et c'est ce personnage qui ne parlait pas français, qui parlait très bien anglais, anglais, grec, italien, arménien, turc, mais qui ne parlait pas français, qui vient s'installer à Paris. C'est quand même étonnant, la vie. Et c'est avec elle que j'ai beaucoup grandi, parce que ma mère allait voir sa mère, elle était fille unique, donc on allait voir les grands-parents très souvent, et puis à partir d'un moment, j'avais des ambitions un peu comme Rastignac, qui a envie de s'émanciper de sa ville pour aller sur Paris. Moi, j'avais une obsession qui était Paris. Je trouvais Paris une ville très belle. Moi, j'habitais en banlieue parisienne. Mes grands-parents habitaient Vincennes. Vincennes, il y avait le métro à l'époque. C'est une époque où il n'y avait pas le RER. Donc le métro, c'est Paris. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
On parle des années 70.
Je parle des années 70.
Vous êtes né en 1969, on l'a pas encore dit. Donc...
Je parle des années 70, il y avait des premières classes dans le métro. On pouvait fumer dans le métro. Et on allait à Paris. On allait au musée Grévin, quand j'étais petit. Puis après au Louvre, quand j'ai un peu grandi. Et ma grand-mère m'emmenait, me faisait découvrir Paris. Et c'était merveilleusement beau, Paris. C'est merveilleusement beau.
Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère ?
Ma mère, pas très douée pour les études, elle me l'a toujours dit. Elle a fait des études de sténodactylo, à l'époque, donc c'est secrétariat de direction. Elle a commencé à travailler à 16 ans, dans un centre de correspondance d'éducation. Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom.
Mais
le sténodactylo, CNED. Le CNED, exactement, dans le 12e arrondissement. Et puis ensuite, elle est devenue assistante de direction de la directrice d'un collège et d'un lycée en banlieue, à Chelles, dans le 77. Et puis elle avait rencontré mon père et ils se sont mariés. Et moi, je suis le second d'une fratrie de trois. Et à ma naissance, elle a arrêté de travailler. Troisième enfant qui a quasiment suivi ma petite sœur. Et à l'époque, les conditions de retraite à l'éducation nationale ont fait que ma mère, à l'âge de 40 ans, a pu prendre sa retraite de l'éducation nationale. Et donc, ça la faisait rager. J'y pense maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti l'anecdote. Quand on mettait profession des parents, je mettais mon père ingénieur en informatique et ma mère s'était retraitée. Et très souvent, les professeurs convoquaient ma mère pour essayer de comprendre l'âge que pouvait avoir ma mère. Elle rageait à chaque fois en me disant, pourquoi t'as encore mis que j'étais retraitée? Je dis, mais maman, tu t'arrêtes pas de dire que t'es à la retraite. Donc, j'ai mis retraitée. Voilà. Et donc, elle s'est arrêtée très tôt. Et plus tard, mon père a voulu qu'elle retravaille. Souhaité parce que, il avait confiance en son épouse et qu'il avait créé sa société. Je crois que ma mère a tenu même pas une semaine dans un bureau. Elle a claqué la porte en disant « Je ne veux pas de cette vie-là, je suis très bien à la maison avec mes enfants, mes copines. » Ça a été une mère hyper active qui nous a traînés de cours de judo en cours de tennis, en cours d'athlétisme, en cours de danse, en cours de musique, qui s'est presque épuisée pour nous. On était, je pense, ses passions, vraiment littéralement. Elle n'a jamais parlé de sacrifice, mais vraiment, j'ai eu cette chance énorme que... Je le comparais par rapport à d'autres mamans qui devaient travailler. Donc, on a eu cette chance que le salaire de mon père suffisait. Mais ma mère nous a suivis. Et surtout, elle l'a reporté sur nous trois. Je pense, toute la bienveillance. Non pas que ses parents n'aient pas été bienveillants, mais on a été élevés sans les interdits dont elle avait malheureusement fait les frais. Elle aurait voulu faire de la danse. Classique, ça ne se faisait pas dans une famille du Moyen-Orient. Elle aurait voulu apprendre à jouer du piano, mais il n'y avait pas la place dans l'appartement de 38 mètres carrés, donc on jouait de la mandoline parce qu'il faut de la place pour un piano et on ne peut pas faire de bruit en plus. Elle aurait voulu faire des choses, et en fait, mes parents, parce que mon père, c'est un peu le même destin, un peu brisé, ils nous ont permis de faire un peu ce que l'on voulait, au sens... fallait faire des choses. Tu préfères faire du violon que du piano, bah tu fais du violon, mais il faut que tu te fasses quelque chose. Tu dois jouer d'un instrument. Tu préfères faire de la danse que du judo ou du tennis, ok, tu choisis, mais tu dois le faire. Et aller jusqu'au bout, et le faire jusqu'au bout, et le faire bien, et essayer d'être le premier. On a pu choisir nos vies. C'est comme ça que j'ai choisi à 14 ou 15 ans, et je leur ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je leur ai dit, moi je veux être parfumeur.
Mais ça vient comment, ça, de vouloir être parfumeur?
Ça vient de... Je suis passé de la danse à la couture. Je viens d'une famille de la couture. Le travail de l'aiguille, on dit en arménien. C'est une traduction littérale, mais c'est comme ça qu'on le disait. Mon grand-père maternel, qui était tailleur pour hommes, avec son petit atelier chambre à coucher dans l'appartement de 40 mètres carrés à Vincennes, où on recevait de la clientèle privée. Et c'était un très, très bon tailleur. Il avait une très belle clientèle. À une époque, il avait habillé le maire de Vincennes, par exemple. Habillé le maire d'une ville à l'époque, c'est quand même très important. C'est voir ma mère qui reprend ce travail de la couture pour elle-même, puisque les femmes, à l'époque, le prêt-à-porter est beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Donc, c'est elle qui faisait ses tenues. Ma mère était très coquette. C'est les années 50-60, donc c'est les années Callas, Kennedy. Les femmes s'habillent à la mode. Être à la mode, c'est s'habiller comme Maria Callas. Ma mère, en plus, avait une ressemblance avec ses origines arméniennes. Arménien-grec, on n'est pas très loin. Donc, le nez... un peu comme ça, un peu le profil prononcé, les cheveux un peu à la Maria Callas. Elle regardait les images de l'époque, comme un peu comme on regarde aujourd'hui les images de figures populaires, un peu mondaines. Et la jet set, les femmes s'habillaient comme un peu ces figures de référence. Et puis la danse combinée à la mode, ça fait la scène. Donc c'est ma mère qui confectionnait mes costumes de scène. J'étais seul garçon en plus. Donc, j'ai toujours des très, très beaux costumes de scène. Et puis, moi, je voulais être couturier, à un moment donné. Voilà, ça m'intéressait.
Et de la couture au parfum
Couture au parfum, dans les années 80, la parfumerie, c'est la haute couture. Seuls les grands couturiers lancent des parfums. Et on les attend. On attend le Saint-Laurent, comme on dit. On attend le parfum Chanel, on attend le parfum Saint-Laurent, on attend le parfum Dior. Presque comme on attend le Messie, mais comme on attend aussi, et cela a complètement disparu... les collections de haute couture. Les collections de haute couture qui donnent le ton du prêt-à-porter. À l'époque, la Fashion Week, c'est que des maisons de haute couture qui sont Avenue Montaigne. L'Avenue Montaigne, c'est lié à mes origines arméniennes, puisque derrière l'Avenue Montaigne, il y a la rue Jean Goujon. Et donc, le dimanche, mes parents nous emmenaient rue Jean Goujon à l'église arménienne où ils chantaient. Ils faisaient partie de la chorale de l'église. Et ensuite, on tournait à droite, puis à gauche, rue François 1er, Avenue Montaigne. Et là, toutes les boutiques de haute couture.
Et c'est ça qui vous conduit, Francis Kurkdjian, à entrer à l'école avec un grand E de parfumerie, qui est l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire, l'ISIPCA, que vous faites donc. Mais comme vous parlez de l'avenue Montaigne, j'aimerais pour terminer cet épisode que vous nous passiez de l'avenue Montaigne à la rue des Groseilliers. Parce que la rue des Groseilliers, c'était la
rue... C'est toujours la rue de mon enfance.
De chez vous.
Toujours,
voilà, de votre
tous
enfance.
Les week-ends voir mon père.
Vous viviez une petite maison bordée d'un jardin potager avec des baies rouges. Mmh. Et de ses saveurs, de ses odeurs, vous avez fait une bougie parfumée qui s'appelle rue des Groseilliers. Mmh. Donc votre enfance, elle est aussi liée à ces parfums-là.
Mon enfance, avec les odeurs, elle est liée à des odeurs déjà de cuisine. Une grand-mère qui, j'ai l'impression, qui passait son temps à cuisiner. Parce que la cuisine orientale, c'est une cuisine très longue à préparer. Et puis surtout, elle cuisinait pour elle, son époux, mais pour nous aussi. Quand on lui rendait visite, on repartait avec des gamelles pleines. Feuilles de vigne, farcies, des moules farcies. Enfin voilà, tout ce qu'une grand-mère en plus aimante peut offrir à ses petits-enfants. Une famille de rescapés, ça marque dans une famille, puisque tout d'un coup, vous avez l'impression que... En ayant perdu toute sa famille, elle se presque réincarne en trois petits-enfants. C'est un don de la vie. Elle est arrivée en France, elle avait pas loin de 30 ans. Ma mère est née en 35, 36, donc ma grand-mère, on pense qu'elle a déjà 36 ans. C'est assez âgé quand même. Une fille unique qui lui donne trois petits-enfants. Des enfants qui sont arrivés très tardivement aussi pour ma maman. Donc tout d'un coup, il y a ces trois petits rejetons là qui tournent autour de ces vieux grands-parents qui ont 70 ans à peu près quand on est. Donc c'est quelque chose qui est, mais ils avaient une expression qui était merveilleuse, qui disait quand on arrivait chez eux, c'est comme si le soleil se levait dans leur vie. C'est quand même incroyable cette histoire. Donc la rue des Groseilliers, c'est à la fois ces odeurs de cuisine, c'est un jardin. J'ai eu en détestation très longtemps le jardin parce que mes parents ont eu cette idée très bizarre de faire pousser des groseilles. Rue des Groseilliers, mon père adore ça, mais c'est amer, c'est vraiment pas bon. Quand on est enfant, on a envie de manger sucré. Il n'y avait pas un arbre fruitier, pas beaucoup d'arbres avec des fleurs, et quand il y avait un arbre avec des fleurs ou des plantes avec les fleurs, elle ne sentait pas. Et donc la corvée, c'était de tondre le gazon. Donc pendant très très longtemps, j'ai eu la détestation des espaces verts. Et j'ai retrouvé ce plaisir de l'espace vert quand j'ai pu m'offrir une petite terrasse dans Paris qui m'a redonné le goût du jardinage. Donc la rue des Groseilliers, oui, c'est une émotion de l'enfance, mais avec un prisme très particulier du rapport à l'espace vert.
C'est drôle que vous évoquiez des espaces verts et des jardins qui ne vous plaisaient pas à travers des fruits que vous n'aimiez pas manger, parce que dans votre bureau, où nous sommes donc toujours, il y a un arbuste qui ressemble très fort à un mandarinier qui n'en est pas un, ou un clémentinier. En tous les cas, les fruits ne se mange pas.
Non,
ils sont trop amers. Donc c'est aussi, c'est les groseilles
c'est
d'aujourd'hui.
Ça pourrait être les groseilles d'aujourd'hui. C'est un arbre auquel je tiens, mais comme la prunelle de mes yeux, puisque la personne qui me l'a offert, c'est un peu ma fée marraine, comme j'appelle ces femmes qui m'ont aidé dans ma carrière, qui m'a aidé à financer la maison avec mon associé, qui nous a financé une partie de la maison et qui m'a dit, mon petit Francis, tant que cet arbre aura des fleurs et des fruits, la maison se portera bien. Et donc je veille à ce que l'hygrométrie de la terre, qu'il ait tout ce qu'il faut pour qu'il continue. Et je suis content parce qu'on l'a déménagé il y a 6 mois, donc il y a encore des fruits. J'ai vu qu'il y avait eu des fleurs, donc il s'acclimate plutôt bien. Donc je suis très fier et très heureux qu'il trouve son nouveau nid, boulevard des Capucines.
Merci Francis Kurgian. On se retrouve pour l'épisode suivant, l'épisode 3, le mâle entre en parfumerie.
Merci Caroline.
À demain. C'était À Voix Nue avec Francis Kurgian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Loïc Duros et Julien Girard, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.